Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Avec nous au téléphone, Françoise Verna. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Bruno.
Nous reprenons cette semaine les unes de La Marseillaise. La Marseillaise, on le rappelle, c'est bien sûr l'hebdomadaire d'Occitanie, apparaître en kiosque tous les vendredis. Quelles sont les unes de cette nouvelle Marseillaise, Françoise ?
Alors, cette semaine, dans le prochain numéro, nous consacrons le dossier de la rédaction à la crise de l'énergie.
Oui.
Donc nous analysons les raisons de la flambée des prix de l'électricité et du gaz notamment, alors que le gouvernement annonce de nouvelles hausses de prix de l'électricité.
Oui.
Donc c'est un sujet majeur, c'est un sujet, on va dire, brûlant, puisque les conséquences sont très très importantes et négatives pour que ce soit les ménages, les entreprises et les collectivités locales. Et donc nous décryptons les causes profondes de cette crise.
Vous avez aussi à la une de cette nouvelle Marseillaise votre entretien avec le maire de Grabel, René Revol.
Oui. Tout à fait. Donc c'est en fait un peu dans le prolongement de ce décryptage des causes profondes de la crise de l'énergie. Donc notre invité du grand entretien de la Marseillaise est le maire de Grabel, donc René Revol, qui est à la France Insoumise aussi. Mais outre ses fonctions d'élu, René Revol est économiste.
Oui.
Et donc il participera le 22 septembre prochain à la Carmagnole, c'est à 19h, et c'est ouvert au public, à une réunion publique donc sur les impacts de l'inflation dans la vie des gens au quotidien. Voilà, et il nous explique un petit peu les ressorts de cette crise en parlant des salaires notamment et des propositions qui pourraient être différentes que celles qui sont proposées notamment par le gouvernement.
D'accord. Troisième point de cette une, l'actualité sociale où vous donnez encore une fois, j'ai envie de dire, la parole aux travailleurs de la santé qui se mobilisent le 22 et le 27 septembre prochain.
Oui, tout à fait. C'est l'actualité sociale qui, en ce mois de septembre, va être très très forte, hein, puisque dans la perspective de la journée interprofessionnelle publique-privée du 29 septembre, il y a les travailleurs de la santé qui se mobilisent, on va dire les premiers. Il y a eu quand même le 13 aussi les salariés de l'énergie. Le 22 donc et le 27 septembre, ben, pourquoi ils se mobilisent ? Parce qu'une nouvelle fois, l'hôpital public est toujours en crise, avec un manque de moyens humains, manque de moyens matériels, et donc on leur donne la parole et ils seront notamment à Montpellier, notamment le 27, mais le 22, il y aura des actions également.
Là, on va parler aussi, pour ce quatrième point, d'un scandale, et le mot est faible, celui du non-accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap.
Oui. C'est-à-dire que près de 3 semaines après la rentrée, nous avons décidé de faire le point sur ce scandale absolu, comme vous le dites, du non-accès à l'éducation des enfants en situation de handicap. Combien sont privés de ce droit fondamental et élémentaire ? Alors, selon l'association UNAPEI, que nous avons interrogé, qui a des antennes notamment dans l'Hérault, au niveau national, c'est 18% des enfants en situation de handicap qui sont complètement privés d'accès à l'éducation. Et donc, nous avons des témoignages qui, au-delà d'être poignants, démontrent aussi que c'est un droit qui est bafoué et que c'est un combat quotidien pour les familles, les associations et pour ces enfants qui ont droit à l'éducation. C'est quand même incroyable de devoir encore le répéter.
On passe à quelque chose de plus léger, heureusement, à l'actualité culturelle. Et puis, vous avez fait une sélection des lieux à visiter dans le cadre des Journées du patrimoine.
Oui, tout à fait. Donc, on sait que le week-end du 17 et du 18 septembre, donc il y a les journées du patrimoine, donc c'est un grand rendez-vous national qui se décline évidemment dans tous les territoires. Et donc nous avons fait une sélection très subjective de la rédaction sur des lieux à visiter, évidemment il y en a énormément. On a aussi pris le parti de faire un éclairage sur un chantier en cours pour restaurer le plus haut clocher d'Occitanie, celui de la cathédrale de Saint-Vulcran à l'Odève.
Oui.
Donc c'est une mobilisation, on va dire, citoyenne, des collectivités, parce que il est fissuré. Il a fallu faire une dépose des cloches de ce clocher, donc c'était assez spectaculaire,
ouais.
Et c'est un chantier qui va durer à peu près une bonne année, et voilà, nous on suit les pas de la dépose de ces cloches, et c'est l'occasion aussi d'aller voir comment se passe ce chantier, et donc de visiter ce patrimoine qui fait partie de notre histoire.
Pour finir, vous êtes allé à la rencontre du Centre Dramatique National des 13 Vents à Montpellier,
oui.
Pour rencontrer les deux dirigeants, Olivier Saccomano et Nathalie Garou.
Oui, donc en fait, on a une interview croisée, comme on dit, de ces deux co-responsables, co-directrice Nathalie Garou et co-directeur Olivier Saccomano. Nathalie Garou est metteuse en scène et Olivier Saccomano, lui, il a une formation de philosophe.
Mmh.
Donc ça donne quelque chose de très intéressant au niveau des contenus qui sont proposés pour cette saison, notamment une cerisée de Tchekhov qui a été présentée et qui est présentée avec une troupe franco-japonaise. Donc
oui.
Voilà, donc ils donnent un éclairage et surtout sur le sens de leur mission, hein, une mission, on va dire, d'intérêt complètement public, hein, puisque c'est un centre dramatique national qui est soutenu et les collectivités et par l'État, le ministère de la Culture, et qui propose donc, qui a les moyens de faire de belles créations.
Mmh.
Et c'est l'occasion aussi d'inviter le public à aller découvrir cette nouvelle saison du théâtre des 13 Vents, qui est une très belle scène montpelliéraine.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres, et maintenant, on décrypte.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Donc comme on le disait en introduction, cette semaine, le dossier de la rédaction de la Marseillaise est consacré à la crise de l'énergie qui risque de s'étendre et de s'étaler dans le temps.
Oui, nous avons fait ce choix parce qu'évidemment, c'est l'actualité la plus brûlante, mais comme c'est notre ligne éditoriale à la Marseillaise, on va aller plus loin que les faits bruts,
mmh.
mais décrypter et savoir pourquoi, quelles sont les raisons de cette flambée incroyable des prix de l'énergie. Bon, l'énergie, évidemment, on peut parler du pétrole, il y a l'électricité et il y a le gaz.
Mmh.
En gros, hein, c'est les trois produits énergétiques, hein, qui nous servent donc dans la vie quotidienne, qui servent aux entreprises et qui servent aux collectivités locales à mener à bien leur mission de service public.
Mmh.
Or, ça fait des mois et des mois, et bien avant la guerre déclenchée par Poutine en Ukraine, que cette crise de l'énergie a commencé, notamment au niveau des collectivités locales. Depuis le début de l'année 2022, l'Association des maires de France avait déjà alerté,
oui.
puisque les collectivités locales n'ont plus droit aux prix réglementés,
mmh.
et voient donc leurs factures exploser à cause de la spéculation et de la situation aussi géopolitique,
mmh.
hein, puisque le fait que le gaz se soit raréfié avec la guerre en Ukraine, sachant que l'électricité, le prix de l'électricité est indexé à celui du gaz, ça crée des factures exorbitantes pour les collectivités qui ne peuvent plus suivre,
mmh.
et donc plus assurer leur service public.
Et puis les collectivités, suite à une loi de 2010, sont obligées de passer par des appels d'offres dans le privé aussi.
Tout à fait. Donc en fait, le fond du problème, la raison fondamentale, évidemment, qui explique cette crise de l'énergie, c'est que le secteur de l'énergie a été ouvert à la concurrence dans les années, donc au milieu des années 2000.
Mmh.
Les conséquences, c'est qu'on a un opérateur national historique qui est EDF,
mmh.
qui aujourd'hui est obligé par le gouvernement à vendre à prix bradé son électricité à ces opérateurs privés qui, eux, ne produisent pas d'électricité, mais vendent des contrats. Ouais. Et parce qu'ils sont pris à la gorge, l'État a décidé de les aider en leur vendant à prix bradé via EDF l'électricité, qui, eux, refacturent beaucoup plus cher aux collectivités. Donc ça, c'est un des ressorts de la crise. On a aussi un économiste, Jacques Rigaudia, qui fait partie des économistes atterrés que nous interrogeons.
Oui.
Et son interview est très intéressante parce qu'il décrypte les trois... En fait, il ne parle pas d'une seule crise, il parle de trois crises.
Oui.
Une crise donc structurelle et écologique aussi, puisqu'on a un modèle économique qui est encore basé sur les énergies fossiles.
Mmh.
Donc ça, c'est le premier ressort de cette grande crise majeure. On a eu la crise post-Covid qui n'est pas due, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à une frénésie consommatrice des ménages,
oui.
mais à une difficulté pour la production, hein, de redémarrer et de proposer et d'être de nouveau opérationnel. Notamment, évidemment, on a des répercussions énormes puisque de nombreux pays n'étaient pas prêts à cette phase post-Covid.
Mmh.
Et puis, évidemment, la troisième crise, c'est l'invasion de l'Ukraine, comme
oui.
je le disais, avec l'augmentation... l'augmentation du prix du gaz du fait qu'il y a une situation géopolitique extrêmement difficile. Alors c'est vraiment ces trois crises qui s'assemblent, hein, nous dit Jacques Rigaudia, et donc elles vont ensemble, elles ont des conséquences, nous explique-t-il, dramatiques,
mmh.
hein, puisque pour lui on s'engage dans une crise économique et sociale majeure. Et il estime que les réponses apportées tant par les gouvernements que par les banques centrales
mmh.
sont pour lui des foromèdes, notamment ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Hein,
qui va s'étioler en 2023. Hein.
Exactement. En plus, bon là, on a des annonces d'augmentation de nouveau de la facture d'électricité.
Mmh. Du 10 à 15%.
Exactement. Et voire plus. La question, ce qu'il dit, c'est que ces remèdes, pour lui, qui sont des remèdes néolibéraux,
mmh.
Cherchent à éviter la question du pouvoir d'achat, et notamment la question salariale.
Et oui.
Donc voilà, donc on a ces décryptages, on a aussi des éclairages avec des associations de consommateurs,
mmh.
La situation dans les collectivités donc. On a aussi les syndicats qui s'expriment, notamment la CGT qui porte un programme progressiste de l'énergie,
oui.
Qui est de revenir à de remettre l'énergie, qui est un droit fondamental, dans le giron public.
Oui.
Voilà. Donc nous sommes sur ce dossier qui concerne tout un chacun. Aujourd'hui, et l'objectif, c'est de donner des clés de compréhension de cette crise qui nous tombe sur la tête.
Mmh. Et dans le prolongement de ce décryptage des causes profondes de la crise de l'énergie, votre invité du grand entretien de la Marseillaise est le maire de Grabel, René Revol.
Oui, alors là, c'est la casquette économiste que nous lui avons demandé de mettre, puisque il est économiste de formation, c'est un agrégé d'économie, donc il sait de quoi il parle, et donc il est progressiste, hein, il est à la France Insoumise, René Revol, le maire de Grabel. Il est invité donc le 22 septembre à la Carmagnole pour une réunion publique sur le thème inflation, salaire, quel impact sur la vie des gens. Et surtout aussi, après, quelle réponse à apporter différente, si c'est possible de le faire. En tout cas, le gouvernement, lui, propose les boucliers, ce qui nous dit, évidemment, c'est un moindre mal, mais c'est une réponse ponctuelle.
Oui.
C'est vrai que quand on subit en France une hausse de 10% du prix d'électricité, on a des pays encore plus ultralibéraux que la France, comme la Grande-Bretagne
mmh.
ou l'Allemagne, qui dépend fortement du gaz russe, où on a des augmentations intenables pour les entreprises et pour les ménages. Hein,
je crois qu'en Angleterre, on est à 150% d'augmentation.
Oui. Et donc, En fait, on lui demande aussi de répondre à des questions simples, mais qui peuvent éclairer nos lecteurs. Mais c'est quoi l'inflation et les causes de l'inflation, surtout? Donc, il explique bien que ce n'est pas à cause d'une demande qui augmenterait plus vite que l'offre, hein, mais c'est à cause de la désorganisation des chaînes productives depuis la crise sanitaire. Hein. Donc, ce sont des réponses de fond. Donc, à la question comment permettre aux gens de s'en sortir? Évidemment, lui, sa réponse, c'est d'indexer à nouveau les salaires sur les prix, donc et aussi les pensions de retraite, hein, qui n'ont pas été revalorisées depuis très longtemps, y compris les augmentations de salaires, notamment pour les fonctionnaires, puisqu'on parlait des travailleurs de l'hôpital public. Ça ne rattrapera jamais ce qui est annoncé, ce qui a été fait, à savoir à peu près 3%, oui. 3,5%. Hein. Ça ne rattrapera jamais l'inflation qui aujourd'hui est à 6-7%.
Oui, et qui voilà, risque de finir beaucoup plus haut.
Un décryptage très intéressant et évidemment qu'on peut prolonger après le 22 septembre pour ceux qui le peuvent, hein, les auditeurs et les lecteurs de la Marseillaise, pour participer à cette réunion publique à la Carmagnole le 22 septembre à 19h.
Dans l'actualité sociale, vous donnez la parole aux travailleurs de la santé qui se mobilisent le 22 et le 27 septembre pour réclamer encore une fois des moyens de plus à l'hôpital public. On aurait presque oublié la crise du Covid avec tous ces thèmes inflationnistes, on va dire.
Oui, tout à fait, mais en fait, on voit bien que tout est lié, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même une orientation, on va dire, une orientation politique de réduire les déficits publics. Voilà, donc les moyens supplémentaires pour les services publics qui doivent être développés, la santé est en première ligne. Oui. Évidemment, la crise du Covid, maintenant, n'est pas passée, hein, puisqu'il y a une huitième vague qui commence à arriver, qui va s'ajouter à la crise liée à l'explosion des prix de l'énergie. Évidemment, l'hôpital public, lui, n'a pas arrêté, en dépit des mesures qui ont pu être prises dans le cadre du Ségur de la santé. Aujourd'hui, c'est vraiment des traitements homéopathiques, alors que, comme nous explique par exemple Philippe Peretti de la CGT des hospitaliers à Montpellier, oui. Il rappelle quand même l'été chaotique que les personnels de l'hôpital soignants et non soignants ont dû à subir, par exemple avec la pédiatrie, il nous dit-il qu'il a énormément souffert. Oui. Il dit qu'il manque du monde. Il y a un protocole d'attractivité qui a été signé en juin dernier, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'il y a une crise aussi des vocations. Et oui. Ce sont des métiers difficiles qui ne sont pas bien payés par rapport à la responsabilité en jeu. Et donc, on a des personnes qui démissionnent ou qui quittent carrément le métier. Mmh. Et donc, voilà, que ce soit les représentants des personnels que nous avons interrogés, le résumé, c'est ils craquent. Certains partent au bout d'une semaine. Donc, ils disent qu'il faut revaloriser évidemment les salaires parce que les métiers n'attirent plus. Il y a même une intersyndicale FO, ENSA, CFDT qui avait signé la première mouture du Ségur de la santé avec la prime de 183 euros. Ouais. Bon, ils sont contents de l'avoir obtenue. Mais le Ségur dit Ségur 2 a complètement oublié, nous explique-t-il, les ouvriers, les administratifs et les agents de services hospitaliers, sans qui l'hôpital ne peut pas tourner. Donc ils se battent aussi pour que l'ensemble des salariés soient revalorisés. Donc ils sont aussi très très déçus par l'attitude du nouveau ministre de la Santé, François Braun, qui a eu la bonne idée le 23 août de venir dans l'Hérault, mais il est venu inaugurer la plus grande clinique privée de la métropole sans faire un tour au CHU de Montpellier.
On passe à un autre sujet d'actualité tout aussi grave, les enfants en situation de handicap qui n'ont pas le droit à l'éducation.
Exactement. Donc,
on peut dire ça.
Oui, donc c'est un scandale absolu. tous les ans, il y a donc un éclairage qui est fait, mais c'est tout au long de l'année et de leur vie que, enfin de leur vie de jeunes enfants ou adolescents, qu'ils subissent cette discrimination au droit fondamental à l'éducation. Donc on a dans nos colonnes Bernard de Simoulier, qui est président de l'UNAPEI de l'Hérault, qui donc a comptabilisé dans l'Hérault, en dehors du pays de Béziers, hein, elle seule, elle comptabilise 319 enfants et adolescents laissés sur le carreau cette année.
C'est une honte.
Donc, c'est quelque chose qui est proprement scandaleux. Il faut des places, mais pour avoir des places, il faut des moyens humains, il faut des lieux, il faut toute une chaîne qui se mette en place. Et donc, il regrette que pour l'heure, les seules places créées, ce sont les 10 places d'unité élémentaire d'enseignement autiste à Frontignan,
oui,
et 25 places dans le service d'éducation spécialisée de soins à domicile. Il n'y a rien eu en IME, l'Institut, ouais, des instituts médico-éducatifs. Et il dit que pour arracher ces quelques places, il faut déjà se battre pendant des années. Donc ça, c'est vraiment leur donner la parole. C'est pas simplement constater et déplorer et dénoncer, c'est aussi exiger des moyens pour l'accueil de tous les enfants. De tous les enfants.
Oui, et puis donc, arrêter de rajouter du handicap au handicap, en fait. Hein,
exactement, c'est... puisqu'on sait très bien que l'école, ce qu'on en a, le mot inclusif, tout le monde l'a à la bouche, mais les actes ne suivent pas.
Oui.
Or, les enfants en situation de handicap, quand ils sont accueillis comme ils doivent l'être dans les classes, ce sont des enfants qui apprennent, qui ont des apprentissages et qui progressent. Donc, on a un problème de société. Un problème de société majeur.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que tout le monde puisse vivre sur un pied d'égalité, quelle que soit sa situation, ou bien on dit clairement aux parents, écoutez, c'est à vous de vous occuper seul de vos enfants avec les assos qui pourront vous aider si elles en ont les moyens. Donc ça, ce n'est pas acceptable et nous engageons évidemment à leur côté pour leur donner la parole et pour faire connaître ces situations dans le but aussi que les choses bougent.
Et puis peut-être qu'il y a que vous faites connaître aussi les recours possibles parce que tous ces parents ont le droit de porter plainte en fait contre ça.
Tout à fait. Alors il y a évidemment l'UNAPEI a créé un site, marentrée.org, et donc là des parents qui sont de toute la France qui témoignent. Ils témoignent de la situation, voilà, petit Théo, pas petit puisqu'il a 16 ans, qui n'a plus d'école, il est toujours à la maison sans solution. Nathan, lui, il a un programme au compte-goutte dans une classe spécialisée Ulysse. Il est simplement 2 heures par jour. Sa maman déplore, elle voit son enfant perdre en autonomie parce qu'il avait et perdre en confiance aussi en lui. Voilà, donc on a plein de témoignages qui montrent que il faut prendre à bras le corps cette question avec des prises en charge complètement adaptées et aider, accompagner les parents pour que il y en a une maman qui dit tout simplement imaginez votre enfant, il n'a pas de handicap. Et puis on vous dit, cette année, on ne peut pas le prendre parce qu'il n'y a plus de place. Et vous le gardez à la maison. Je pense que ça serait un scandale national.
Absolument. Et puis on peut même parler de signes de société. Une société va mal quand elle s'occupe mal de ses personnes âgées et de ses personnes en situation de handicap aussi.
Tout à fait. Complètement. On est bien d'accord sur... C'est pour ça que je disais que c'est une question fondamentale de société. Et nous la portons en ouvrant nos colonnes et en donnant la parole à ces personnes de terrain, ces bénévoles, souvent dans les associations, il y a très peu de salariés, qui se battent littéralement contre l'administration et les représentants de l'État pour faire valoir le droit à l'éducation.
Et heureusement, j'ai envie de dire qu'un média comme la Marseillaise donne la parole à ces gens-là.
Oui, c'est notre devoir.
Et je pense aussi. Allez, on parle dans un tout autre sujet, dans une autre thématique des Journées du patrimoine.
Oui, alors c'est toujours un rendez-vous extrêmement intéressant parce qu'il permet justement à un très large public, hein, aux habitants des territoires, d'aller visiter gratuitement. Ça, c'est très important aussi, la notion d'accès à la culture sans avoir la barrière de l'argent, hein, et de pousser la porte de monuments plus ou moins connus. Donc nous avons fait une sélection qui est pas complètement bouclé, mais qui va donner quelques points de repère à nos lecteurs et sur notre site internet aussi, mm-hmm. pour aller donc visiter ce beau patrimoine. Et on sait que l'Hérault, l'Occitanie n'en manque pas et l'Hérault non plus. Un territoire, un département très riche en patrimoine. On a fait un reportage à l'ODEV, aux côtés de celles et ceux qui s'occupent de ces grands travaux à la cathédrale de Saint-Fulcran, mmh. qui a le plus haut clocher d'Occitanie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est haut de 57 mètres.
Oui.
Il a été classé au monument historique depuis très longtemps, puisque c'est 1840. Mais au fil du temps, nous explique les élus de la commune, notamment la maire de la commune, Gaëlle Lévesque, qui nous occupe c'est fragilisé, hein, donc il faut réparer ce beau clocher. Mmh. Donc il a fallu rassembler l'argent, il a fallu donc se faire aider, notamment la région Occitanie, le département de l'Hérault ont mis aussi la main à la poche. Il y a eu aussi l'État. Et donc, on était là au moment de la dépose des cloches. Donc, des cloches de ce grand clocher. Oui. Il faut déposer les cloches pour pouvoir donc le restaurer.
Énorme opération, j'imagine.
Pardon ?
Énorme opération, j'imagine.
C'est une énorme opération. Notre journaliste Catherine Ventrini était sur place. Donc, elle est assistée et elle raconte... Elle raconte tout ça, des choses très intéressantes, notamment, c'est la troisième fois de l'histoire que les cloches sont déposées. Donc on est dans la grande histoire. La première fois, c'était en 1576,
oui.
quand les protestants ont envahi la ville et ont saccagé la cathédrale.
Oui.
En 1794, la deuxième fois, c'était sous la Révolution française, quand on a détruit les cloches pour pouvoir... les envoyer à la fonte et faire des canons. Et là, on est quand même dans une période un peu plus pacifique, puisque on fait une dépose pour rénover le clocher.
Mmh. Allez,
voilà,
on reste.
Il faut savoir...
Oui,
voilà,
pardon, Françoise.
Voilà.
allez-y.
Non, je voulais juste dire que les cloches d'origine, il n'en restait plus qu'une.
D'accord.
Parce qu'il fallait, quand même, elle a été sauvée parce qu'il fallait quand même donner l'heure.
Et oui, d'accord.
tous les jours. Donc, c'est la plus ancienne, elle date de 1676.
D'accord.
Voilà.
Et puis je vais rajouter une petite chose, c'est indispensable, je trouve. Moi j'habite dans une petite ville maintenant, mais qui est un ancien petit village. C'est indispensable d'entendre l'heure de la cloche du village. Moi j'adore ça.
Eh oui, il faut pas s'en plaindre. Comme certains,
exactement. Allez, on reste dans la culture avec le Centre dramatique national redevenu les 13 vents, parce que ça avait changé de nom. Vous êtes allé à la rencontre des deux dirigeants de ce centre dramatique.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons une interview croisée, comme on dit, entre Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, qui sont donc les co-dirigeants de cette scène nationale. C'est un centre dramatique national. Et donc, la nouvelle saison là, qui va s'ouvrir est extrêmement intéressante. Hein. Puisque parmi les pièces qui vont être proposées au public, en décembre, ils vont accueillir La Cerisée de Tchekhov, mmh. Que Daniel Jeanneteau et Mamar Ben Ranou ont monté au Japon,
oui,
avec une distribution franco-japonaise. Donc c'est une relecture, aussi bien dans la mise en scène notamment, de cette grande pièce de Tchekhov. On les a aussi interrogés sur évidemment le sens qu'ils donnaient à leur travail, mmh, et un peu la philosophie de la nouvelle saison. Et donc ils nous ont répondu que pour eux le théâtre était là pour il est là pour exercer notre regard. Voilà, en parlant de la joie particulière à partager collectivement une expérience.
Ouais.
Où on va regarder voilà, des formes étonnantes qui sortent de nos montages mentaux habituels, je dirais, du quotidien. Hein. Ils le disent, hein, que ce théâtre des 13 ans, il essaie de se tenir à cette humble exigence, c'est-à-dire l'exercice du regard.
Mmh.
Et le public est invité à découvrir hein, cette nouvelle saison. Ça se passe le 16 septembre,
ouais,
entrée libre, faut réserver ses conseillers, c'est pas obligatoire,
mm-hmm,
pour pouvoir rencontrer donc Olivier Saccomano, qui est aussi auteur de théâtre,
ouais,
qui a une formation de philosophe, et sa consoeur qui est metteuse en scène.
Mm-hmm. Et bien voilà, chers auditeurs, vous savez tout sur ce nouveau numéro de La Marseillaise qui paraîtra bien sûr en kiosque ce vendredi. Et puis nous, Françoise, on se retrouve bien sûr à partir de lundi sur Divergence FM pour
oui,
notre nouvelle collaboration dans l'émission
oui,
politique de Divergence.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on retrouvera dans le journal, on retrouve la version écrite de l'émission Quoi de neuf.
Parfait. Comme ça, au moins,
voilà,
c'est l'additionnel de ce qu'on peut entendre sur l'antenne et retrouver sur le site de Divergence FM.
Voilà, exactement. On peut l'écouter en podcast et on peut le lire dans La Marseillaise.
Merci beaucoup, Françoise Vernat. À la
merci,
semaine prochaine.
Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.